le jeudi 26 juin.
C'est la journée départementale de l'éducation à l'environnement.
Un moment de rencontre et d'échange
entre écoles, élèves, enseignants,
partenaires et éducateurs à l'environnement de Lozère.
À cette occasion, le Réel 48, Radio Bartas et 48 FM s'associent pour des plateaux radio.
En direct du domaine de Bec de Jeu à Balsièges.
Temps public, c'est à 11h et à 15h30. Eh bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Radio Bartas et sur 48 FM en direct de Bec de Jeu à Balsièges pour cette journée extraordinaire qui s'est déroulée magnifiquement bien, la journée départementale de l'éducation à l'environnement. Je ne fais pas faire l'erreur, je l'ai marqué, 230 enfants qui se sont rencontrés de différentes écoles de Lozère. Pour cette première partie de plateau, Olivier Cagnet est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Directeur du Réel 48, évidemment, et c'est toi qui vas introduire dans quelques instants un peu ce plateau, la contextualisation. Par qui et comment c'est financé également, évidemment, puisque les financements sont importants. Sur cette première partie de plateau, Éléonore Sollier est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Tu es chargée de mission au Parc national des Cévennes, éducation nationale.
C'est ça.
Et Hélène Follop, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes référente jeunesse département pour la Lozère, évidemment. On ne va pas parler du Gard aujourd'hui, ça ne servirait absolument à rien, même si je suis sûr qu'il s'y passe beaucoup de choses. Elle interviendra en deuxième partie de plateau, mais elle est avec nous aussi. Céline Duchesne, bonjour Céline.
Et bonjour.
Toujours un plaisir de te recevoir. Toi, tu vas nous parler notamment du projet Mon Territoire au fil de l'eau. Et tu es ici avec l'association Une Simple Fenêtre. Olivier, merci beaucoup d'être avec nous. Alors contextualisons cette journée un peu. Pourquoi on est là finalement ?
Eh ben, on est là pour se faire rencontrer tous les projets et donc les écoles qui ont porté ces projets-là d'éducation à l'environnement et au développement durable. C'est comme ça qu'on dit EEDD, voilà le petit sigle. Et donc ça rassemble à travers une aide du département qui est les contrats éducation environnement Lozère. Les écoles bénéficient d'une somme d'argent pour mettre en place des projets qu'elles ont décidés. Les sujets peuvent être assez variés, de l'eau en passant par la biodiversité, le jardin, les déchets, l'énergie, voilà, tous les sujets en gros de l'éducation à l'environnement. Et aujourd'hui, donc, c'est un temps fort annuel qu'on organise, soutenu par, on y reviendra peut-être, par différents partenaires, mais dont le département est le premier. Pour valoriser aussi cette politique de jeunesse qui est axée sur l'environnement et les jeunes, donc du coup, qui aujourd'hui sur un temps scolaire, parce qu'il y a aussi des projets en temps hors scolaire et en collège et en lycée, mais aujourd'hui on est plutôt là sur le temps école, donc comme on dit, premier degré.
J'en profite pour remercier vraiment énormément Marion Cardignac qui a organisé cette journée et qui a coordonné ce plateau. Merci beaucoup à toi, Marion. Un mot sur l'Agence de l'eau, quand même, qui est directement présente quand même aujourd'hui.
On parlait des financeurs, effectivement, on va retrouver sur cette journée-là, alors il y a aussi la structure qui nous accueille, la Ligue de l'enseignement, à travers le centre Bec de Jeu, qui a mis à disposition le lieu aujourd'hui. Donc ça fait partie des partenaires qui ne participent, on va dire, quelque part financièrement aussi, puisqu'elles mettent des moyens en nature. Il y a aussi, par exemple, il y avait l'Office français de la biodiversité qui était présent aujourd'hui. Il y avait le syndicat de rivière Lotte d'Ourdou. Donc tout ça, c'est des agents qui sont présents sur cette journée-là et qui aident à l'organisation et à l'animation de cette journée-là. Et si on parle des financeurs, donc tu parlais de l'Agence de l'eau, qui effectivement, on a voulu cibler cette année, cette journée sur la thématique eau et changement climatique. Plus spécifiquement, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui est porté maintenant, on va dire, très très fortement et haut, notamment par les agences de l'eau en France. On sait que en 2050, ce qui n'est pas dans si longtemps que ça, la ressource en eau va être, désolé, quasiment divisée par deux en France, et donc ça va créer des tensions sur ça, tout ça sur fond de changement climatique et éventuellement de conflits d'usage. Donc effectivement, c'est un sujet où il faut se préparer, malheureusement, préparer aussi les nouvelles générations. On va tous être amenés à avoir, je pense, des changements de comportement, et c'est pas facile de changer de comportement sur le long terme, mais on va devoir passer par là. Donc voilà, le Réel œuvre, et on y reviendra aussi tout à l'heure, à travers différentes actions sur Mon Territoire au fil de l'eau, où là on appuie sur des actions citoyennes, comment on implique les citoyens dans cette problématique là pour revenir sur les financeurs, donc Agence de l'eau, il y a le département bien sûr, mais il y a aussi la DREAL et la région. La DREAL, c'est un service de l'État, de Direction régionale de l'environnement, et la région Occitanie qui contribue. Nous, on flèche ce qu'on appelle des cofinancements sur cette journée-là, parce que voilà, le département tout seul ne pourrait pas financer toute l'organisation qui, tu disais, Marion a travaillé presque une grosse quinzaine de jours en amont, puisqu'elle se prépare depuis septembre, cette journée. Et on est en juin, donc quasiment toute l'année scolaire. Et donc voilà, Marion a beaucoup œuvré pour que tout se passe bien et coordonner ça avec les acteurs qui sont là aujourd'hui. Donc le parc national aussi, j'ai oublié tout à l'heure, aux côtés de l'OFB et du syndicat de Rivière.
Ça va, t'es pardonné.
Il y en a tellement, et l'union fait la force, hein, ça nous le rappelle. Alors en préparant ce plateau, je me suis bien amusé parce que le monde est fait de sigles comme ça. On va commencer par celui-ci, le CEEL, le CEL. Alors Hélène, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est et comment il s'intègre dans le parcours éducatif des élèves?
Alors le CEEL, c'est donc le contrat éducation à l'environnement Lozère. Donc l'idée, c'est que les écoles primaires et les centres aérés déposent des dossiers pour un projet qu'elles ont pendant l'année scolaire. Et du coup, on apporte un petit coup de pouce financier sur ces projets qui leur permettent à la fois d'acheter du petit matériel et aussi de payer des interventions de personnes qualifiées, reconnues par l'Éducation nationale, qui pourront intervenir dans les écoles pour les aider à monter leurs projets.
Et donc, vous êtes organisme financeur de ces contrats, c'est bien ça, hein ?
C'est ça.
À hauteur de... Allez, les projets, ils peuvent aller de combien à combien à peu près
Alors, tout dépend. Il y a des projets où ça va être simplement du petit matériel qui est demandé. Il y a des projets qui sont de plus grande envergure parce que l'école est sur une aire terrestre éducative. Donc, on a une enveloppe globale de 12 000 euros et on répartit cette enveloppe entre les différentes écoles en fonction des projets.
Et Léonore, toi, ton rôle au PNC, c'est d'aider les écoles à les accompagner, leur donner des idées et leur dire,
ouais,
bah tiens, ça existe.
Ça, c'est plutôt mon rôle avec ma casquette éducation nationale, du coup, parce que j'ai la double casquette, avec mes collègues conseillers pédagogiques, Claude et Christophe, sur les autres circonscriptions du département. Notre rôle à nous, bah, c'est de promouvoir, du coup, auprès des enseignants, bah, cette offre-là, en fait, le fait qu'ils puissent pouvoir monter des dossiers pour obtenir des subventions et de les aider à monter ces dossiers et les aider surtout sur la partie pédagogique, à monter le dossier, à construire un projet de qualité, suivant la démarche de pédagogie de projet. Voilà, tout ça, c'est notre rôle.
Essayons de prendre un cas concret, Bar des Cévennes, par exemple.
Ouais, Bar des Cévennes, cette année, ils avaient un gros projet avec un peu multifacette, multiprisme. Donc, ils ont fait une demande dans le cadre des CEEL pour avoir, donc c'est un projet autour de la forêt, pour avoir des interventions d'une association qui s'appelle Dans les Jumelles d'Elo, d'Héloïse Pantel. Et elle est intervenue deux fois dans l'année pour parler plutôt de l'écosystème forestier, de l'arbre, voilà, tout ça. Et en parallèle de ce projet-là, l'école était aussi engagée avec nous, le Parc National des Cévennes, pour le même projet sur la forêt. Donc en fait, on est venu collaborer sur poser des briques différentes pour construire un petit peu ce projet. Et nous, on est plutôt intervenus sur le volet biodiversité en forêt. Voilà. Et puis il y a eu également sur cette école tout un volet artistique aussi, avec des valorisations artistiques, des interventions d'un artiste sur le dessin d'observation, Justin Pifto. Voilà, donc tout ça en fait mis bout à bout, et puis avec la baguette magique de l'enseignant, on va dire, avec les liens qu'il peut faire, les opérateurs de reliance, bah, ça fait un beau projet pédagogique qui marque les élèves et qui est concret. Qu'on crée aujourd'hui, qui a été concrétisé par des petites choses qu'ils ont fait en classe, des productions qui sont venues présenter aujourd'hui à la JDE. Et voilà, c'est ce qui fait le sens.
Et on les salue, les enseignants et les enseignantes, parce qu'effectivement, on s'est régalé avec eux et vraiment, les enfants avaient le sourire jusqu'aux oreilles. C'était super. Hélène, en tant que référente jeunesse au département, comment vous percevez l'engagement des jeunes dans les projets environnementaux ici en Lozère?
Alors, je pense que c'est une génération qui est née avec cette conscience écologique, de protection de l'environnement, etc. Ils ont entendu très tôt qu'il fallait économiser l'eau, qu'il fallait protéger la faune, la flore. En plus, ils sont dans un département qui est ultra préservé, avec un parc national, etc. Donc, je pense qu'ils se mettent très facilement dans les projets. Et on l'a vu cet après-midi, ils ont présenté des choses qui sont très abouties, avec beaucoup de vocabulaire. Et c'est des choses qu'ils appliquent directement dès qu'ils rentrent chez eux. C'est facilement transposable. Quand ils arrivent à la maison, ils vont dire à leurs parents, « Ah bah tiens, on a vu ça, ah bah tiens, bah la chauve-souris, je sais comment ça fonctionne, etc. » Donc je pense qu'on a cette chance en Lozère d'avoir un lien entre l'école, la maison, l'environnement, qui fait que tout est prêt, tout est là pour que cette conscience écologique, elle soit là et puis qu'elle se transmette de génération en génération très tôt.
Olivier, éduquons les jeunes qui éduqueront eux-mêmes leurs parents, c'est un peu l'idée.
On essaye justement de pas trop responsabiliser les enfants. Les responsables, ce ne sont pas eux. Et du coup, les parents, bien sûr, il y a un lien à la famille. Les enfants font des projets éducatifs et ça se répercute effectivement au sein du foyer. Mais les enfants ne sont pas les messagers et il ne faut pas leur en mettre trop sur les épaules. C'est pour ça que en éducation à l'environnement, depuis quelques années, je dirais depuis pas si longtemps que ça, 3-4 ans, on va de plus en plus sur la cible du grand public et des citoyens au sens large, parce que l'urgence, elle est là. Ce ne sont pas qu'aux enfants d'agir, c'est surtout aux adultes et aux responsables. On peut dire, responsables politiques, notamment aux élus aussi, de prendre conscience qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Et le pouvoir d'agir, il est aux citoyens, mais il est surtout chez les élus.
Hélène, la question peut paraître simpliste, je ne sais pas. Les jeunes sur le département, est-ce qu'ils sont suffisamment sensibilisés sur les questions environnementales, selon vous ?
Alors, on en parlait un petit peu ce matin. Il y a énormément d'écoles qui font école dehors. Donc ça, c'est déjà une chance. On est un département où vraiment c'est quelque chose de courant. Et puis après, encore une fois, le territoire s'y prête. Donc je répondrais oui. Alors même si on peut dire on ne l'est jamais assez, mais je pense que quand même, il y a de la matière chez nous.
Quel type de projet, Éléonore, te semble particulièrement inspirant par rapport au sel, notamment des choses que tu pourrais penser à faire et qui donneraient des idées aux enseignants, aux enseignantes?
On a énormément de projets autour de la biodiversité, projet oiseaux, ornitho, projet rivière, connaître la faune de la rivière, les petites bêtes, et puis la ripisylve, tout ce qui tourne autour du milieu aquatique, la forêt. Bien sûr, forcément. On a des projets forêts cette année. J'ai plus en tête, il y en avait plein. Il y en a plein, ça peut aussi être... ça peut aussi être sur l'énergie. Il y a plein de thèmes, plein de choses à faire.
Et pour déposer les dossiers, est-ce qu'il y a des dates butoirs, des moments qu'il ne faut pas rater ?
Alors, c'est l'éducation nationale qui s'occupe de ça, qui envoie les dossiers à toutes les écoles. Il faut les retourner au mois d'octobre. Ensuite, on fait une commission tous ensemble et on attribue les subventions courant novembre.
Merci beaucoup, Hélène.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes référente jeunesse, département Lozère. On va passer à la deuxième partie de cette émission. Je vous propose d'écouter d'abord deux petites capsules parce qu'on a voulu aller à la rencontre des jeunes aujourd'hui. On va écouter une capsule de Bédouest et de Saint-Chély, l'école de Bédouest et l'école de Saint-Chély. En transition toute trouvée, ils ont travaillé sur l'eau. On les écoute.
Bonjour, moi je m'appelle Joachim et moi c'est Taloula. Nous sommes à l'école de Bédouest. Au commencement, Marie-Laure nous a conté des contes à l'école. Elle nous a appris à compter des contes de fées. On les a contés, ces contes, à la fête des Lumières. On a fait une sortie à la rivière avec le parc national des Cévennes sur le Causse. Et après, nous avons choisi des animaux de la rivière. On a dû choisir une question, pourquoi tel animal quelque chose. Ensuite, nous avons commencé les contes, leur personnalité, leur portrait, qui, quand, où, quelle ambiance. On a fait une illustration, nous les avons tapés ou écrits et nous nous sommes entraînés à les réciter pour Radio Bartas. Et ensuite, après les avoir comptés pour Radio Bartas, nous avons fait une chasse au trésor sur le sujet. Nous les avons enregistrés nous les avons illustrés. Moi, du coup, oui, j'ai bien aimé travailler sur ce projet. J'ai trouvé ça intéressant de pouvoir compter comme ça, travailler entre binômes, entre élèves, sur des animaux de la rivière.
Moi, je trouve ça chouette de compter des contes, en plus qui passent à Radio Bartas, et ça me fait plaisir.
Nous avons appris beaucoup de choses sur une sortie qu'on a fait avec le parc national. Nous sommes allés à la rivière avec Caroline, et nous avons vu les animaux, enfin ce qu'ils pouvaient manger, ce qui leur habitude, leur habitat, enfin leur vie quoi.
On a fait des petits jeux sur eux. On a travaillé sur les aigles, les castors, les loutres. On a même travaillé sur leur nourriture.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci beaucoup.
Moi, je m'appelle Miloé.
Moi, je m'appelle Camille.
Je suis Chélie Dapché.
Cette année, vous avez travaillé sur un thème sur l'eau, je crois, j'ai cru comprendre.
Oui, oui. On a pêché.
Dans le Saroule.
C'est juste derrière notre école.
On a pêché un vairon.
Des nèpes.
Des vers d'eau.
Des escargots d'eau.
Tricoptères. Les gamards.
On a fait une sortie...
Dans la grotte de...
La Bernardement. C'est très chouette.
Et aussi, c'était beau.
Bah, il y avait des stalactites et des stalagmites.
Les stalactites, c'est celles qui descendent.
Mais les stalagmites, c'est celles qui montent. On a fabriqué des instruments en argile.
Des argilophones.
Et des castagnettes.
C'est comme les...
Comment ça s'appelle ? Les argilophones, c'est comme des métallophones. Sauf que c'est en argile. On trouve ça plutôt en forme de
gouttes d'eau.
Moi, j'ai trop aimé la grotte.
Moi, j'ai aimé la grotte. Et aussi ce qu'on a fait aujourd'hui.
Au revoir.
Extraordinaire. C'était donc les petites capsules de l'école de B2S, la première, et Saint-Chélie, la deuxième. Nous a rejoint en plateau pour cette deuxième partie. Charles Dutertre, bonjour.
Bonjour.
Tu es animateur, coordinateur chargé d'éducation à l'environnement et au développement durable, animateur pour l'ALEP. Eh bien, pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, l'ALEP.
L'ALEP, c'est l'Association Lozérienne d'études et de protection de l'environnement. Donc je pense que tout est dit plus ou moins dans le titre, mais voilà, du coup, on a un pôle plutôt scientifique et moi, je suis plutôt en charge de la partie sensibilisation, éducation, environnement.
Céline, tu es toujours avec nous pour l'association Une Simple Fenêtre. Alors, on va déjà commencer par parler de ce qu'est ce projet Mon Territoire au fil de l'eau. Qu'est-ce que donc ?
Mon Territoire au fil de l'eau, c'est un vaste projet qui a pour ambition de travailler avec les communes, les élus, les citoyens, sur la considération et la protection de la ressource en eau.
C'est quoi les objectifs ?
Les objectifs, c'est de se saisir de cette question et de terminer à l'issue du process par un chantier collectif qui œuvre pour la ressource, d'une manière ou d'une autre.
Alors, tu as donné une animation aujourd'hui. En quoi elle a consisté ? Concrètement, tu as fait quoi avec tes enfants ?
Alors là, c'est un autre cadre. Aujourd'hui, j'étais aquarée par l'esprit de l'eau. Et j'ai proposé aux enfants d'aller interroger des oiseaux, des fleurs, des arbres, des poissons et des larves, des perles, pour essayer de comprendre à quel point leur vie était liée à l'eau, au cycle de l'eau. Je leur ai raconté un peu le cycle de l'eau et ce qui, moi, me paraît cet élément essentiel, comprendre et savoir que l'eau existe depuis 4,6 milliards d'années et qu'elle n'a pas bougé, sa quantité n'a pas bougé, c'est la même qui circule à l'intérieur de nous et qui a circulé dans les volcans, les falaises, les torrents, les dinosaures, les baleines, les requins. Je trouve ça fascinant, en fait, de conscientiser ça. Et de se rendre compte qu'en fait, l'eau, elle est à la fois essentielle à la vie et en même temps, en dialogue avec elle, on s'en sert de multiples façons, sans forcément lui demander son avis ni l'impact qu'on a sur elle. Et je trouve ça chouette de se poser cette question-là et de finir par un dialogue et voir ce que l'eau a envie de nous dire, ce que nous, on a envie de lui dire et comment on a envie d'en prendre soin tout au long de sa vie.
Auditeurs, auditrices, c'est des jeunes qui jouent au basket derrière nous, hein, pas d'inquiétude, voilà, ça vit, c'est normal, on est à bec de jeu et on est en direct. T'as pas été trop embêté par le tracteur trop longtemps ?
Non, il a été très 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 vite pour pas nous embêter longtemps.
Alors comment les enfants, les jeunes réagissent-ils lorsqu'ils justement redécouvrent leur territoire à travers l'eau ?
Alors là, moi j'ai eu 4 classes et ça a été des expériences très différentes à chacune des classes. J'ai fini par une classe qui pratique l'aire terrestre éducative depuis 2 ans et c'était un bonheur de voir comment ces enfants étaient attentifs, posés, reliés, intéressés, tout ce qu'ils savaient déjà. Je me suis dit, waouh, ça a l'air de porter ses fruits, ces aires terrestres éducatives. Et sinon, il y en a d'autres pour qui c'était peut-être un peu plus compliqué d'imaginer qu'on pouvait parler à un oiseau, à un arbre ou à une fleur. Néanmoins, ils se sont prêtés au jeu et ils ont suivi un petit peu le chemin que je leur ai proposé. Et ils en ont tiré. À la fin, je leur demandais de prendre un petit instant pour savoir ce qu'ils avaient envie de dire à l'eau. Et ils sont tous dans la gratitude et la conscience que l'eau est essentielle à la vie. Et je trouve que c'est déjà un bon point.
On va dire un petit mot sur un projet qui est en train de naître tout doucement. Donc évidemment, on va pas le détailler, mais il sera question dans quelques semaines, peut-être mois, tu verras, de podcast radio. En quoi ça a consisté ? Quelle est finalement l'idée que tu as ? Et je pense que Manon aussi du réel est à tes côtés.
On porte ce projet, en effet. Mais pour l'instant, il est à l'état embryonnaire. Hein. On a fait quelques captations de son dimanche dernier dans le cadre de Mon Territoire au fil de l'eau. On a fait un premier chantier citoyen itinérant. Donc on a fait un chantier chez une personne et puis on va se déplacer chez les uns, chez les autres, comme ça, pour accompagner les gens dans la fabrication de toilettes sèches, dans cette idée d'économiser l'eau potable et de diminuer nos pollutions. Donc j'ai fait quelques enregistrements comme ça et l'idée c'est de faire des petites, je pense un format de 20-30 minutes max. J'avais envie d'appeler ces émissions « S'il te plaît, dessine-moi une rivière ». Et d'aller, donc on va d'abord s'intéresser aux projets qui ont été menés par le réel. Donc ce projet « Mon territoire au fil de l'eau », le projet par rapport au cours Oasis, peut-être par rapport aux aires terrestres, je ne sais pas. Plus, je crois qu'on en a qu'il y a un sujet là-dessus. Et puis après, l'idée, ce serait d'aller interviewer les gens qui sont un peu qui ont des connaissances clés sur le sujet de l'eau et de pouvoir partager en fait la connaissance pointue des scientifiques, des naturalistes, des politiques, des gens qui travaillent qui sont des techniciens de l'eau. Enfin, tous ces gens qui ont des éclairages différents sur cette question et qui peuvent enrichir la conscience de chacun.
On a hâte et puis on les diffusera sur Bartas, évidemment, avec grand plaisir. Charles, est-ce que tu peux nous dire l'animation que tu as mis en place, toi, aujourd'hui ?
Oui, alors aujourd'hui, j'avais un public de tout petits et j'ai décidé de les emmener sur le thème des invertébrés avec un focus sur les insectes sociaux. Donc on a vraiment fait un focus sur les fourmis. Un sujet qui me passionne depuis quelques temps.
C'est passionnant, les fourmis, c'est incroyable.
Ouais, vraiment. Et qui est assez, comment dire, disons que les enfants se prêtent facilement au jeu aussi sur ces thématiques-là. Et puis, on arrive à visualiser des choses de justement cette construction sociale, etc., qui sont porteuses, je pense. Et en tout cas, ça amène un œil sur l'ensemble des invertébrés par la suite. J'apprécie bien ce sujet.
Revenons à l'eau. Comment la LEP aborde-t-elle la thématique de l'eau dans ses actions d'éducation à l'environnement ?
Alors, Mon territoire au fil de l'eau, on en a parlé aussi. Et effectivement, j'ai accompagné aussi la commune d'Esclanède dans ce cadre-là. Et puis après, y a des projets au long cours, comme la fête de l'eau qui s'inscrit dans la fête de la science. La LEP y participe chaque année. Il y a les contrats de rivière, Tarnamont. Il y a tout un tas de thématiques dans le cadre des CEL, il me semble que vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est pas rare aussi qu'on intervienne sur ces sujets là l'eau c'est central et puis c'est un sujet qui m'intéresse aussi
mal. C'est quoi les messages justement que tu as envie de faire passer aux élèves sur la gestion de l'eau?
Alors sur la gestion, à proprement parler, je ne suis pas forcément un spécialiste de la gestion de l'eau, mais j'essaye d'avoir une accroche sur les aspects scientifiques et faune flore en général, biodiversité, pour essayer justement de porter un message par rapport à la sauvegarde qu'on va pouvoir apporter, à la sensibilité des espèces, etc.
Ça fait combien de temps que tu bosses à la LEP ?
Ça fait 5 ans.
5 ans, est-ce que tu as vu des changements de comportement chez les jeunes sur toutes les questions environnementales
Ouais. Ça se voit particulièrement sur les projets au long cours, quand on a l'occasion de suivre une classe sur plusieurs années, les aires terrestres éducatives typiquement. On a suivi des publics pendant 3 ans, pour certains, on les a eus pendant ces 3 années, on les a carrément vus évoluer dans leur façon d'apprécier l'environnement, leur façon d'interagir avec, la concentration, et puis, tout simplement le savoir-être quand on est en extérieur qui change complètement entre les premières sorties des fouloirs où c'est la folie. Et c'est des fois même un petit peu difficile. Et puis après, en fait, ça s'inscrit comme dans un cadre classique, normal, de l'école, avec des repères qui sont complètement différents, quoi. Et ça, c'est les projets où on voit le plus d'évolution, parce que c'est sur le long terme.
Parlons de finances, est-ce que l'ALEP se porte bien ? Ça va ? Ou alors, est-ce que c'est comme toutes les assos, c'est compliqué ?
Bah, l'ALEP, elle rame comme les autres pour équilibrer des budgets. On peut dire que l'année dernière, on a réussi à s'équilibrer, mais voilà, c'est un défi de tous les jours, quoi.
Bienvenue au club. On va faire une petite pause musicale. Si je lis bien, on écoute En me levant. Et c'est Lozic, c'est ça ? Kozik, comme je ne connais pas, on va écouter ça. Et juste après, on écoutera une petite capsule de Saint-Alban sur Emmanuel. On part en forêt, ça va être bien.
J'ai regardé dehors, j'ai vu le soleil, j'ai vu la faune et la flore. En me levant aux aurores, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai inspiré très fort. Et je me suis dit j'ai de la chance d'être en vie. Mais combien de personnes sont atteintes de graves maladies? Je me suis dit j'ai de la chance d'être ici. Mais combien de personnes doivent quitter leur pays? Je me suis dit j'ai de la chance d'être en vie. Mais combien de personnes ne se sont pas réveillées aujourd'hui? Je me suis dit j'ai de la chance d'être ici. Mais combien de personnes vivent dehors sans abri? En me levant, j'ai regardé dehors, j'ai vu le soleil, j'ai vu la faune et la flore. En me levant aux aurores, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai inspiré très fort. T'as de la chance mon ami car tu es toujours en vie. Sur cette petite planète où l'argent fout la zizanie. T'as de la chance boy de pouvoir dormir dans un lit. T'as de la chance de pouvoir manger à ton appétit. Mais n'oublie surtout pas de profiter de ta vie. Mais n'oublie surtout pas de profiter de tes envies. Mais n'oublie surtout pas de visiter d'autres pays. Ta mère t'a fait des jambes, c'est pas pour rester assis. En me levant, j'ai regardé dehors. J'ai vu le soleil, j'ai vu la faune et la flore. En me levant aux aurores, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai inspiré très fort. Pour sourire c'est simple, faut juste montrer tes dents. Tu as tout ce qu'il te faut pour être content. Pourquoi es-tu méchant? Alors qu'à la base t'étais quelqu'un intelligent. En me levant, j'ai regardé dehors. J'ai vu le soleil, j'ai vu la faune et la flore. En me levant aux aurores, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai inspiré très fort. En me levant, j'ai regardé dehors. J'ai vu le soleil, j'ai vu la faune et la flore. En me levant aux aurores, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai inspiré très fort.
Je m'appelle Max. Envoyer 2000 prières au vent.
le silence, les faiblesses de ma voix et habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets du vent. Pour une fois.
La douceur de pomme, les séquoias. Vous êtes bien sur Radio Bartas et sur 48 FM pour ce plateau exceptionnel en direct de Bec de Jeu. Céline est toujours avec nous, merci, et nous a rejoint pour cette troisième partie de plateau puisqu'on va parler de l'arbre et de la forêt, et Léonore Saulier qui est chargée de mission au Parc National des Cévennes pour le service éducatif. Je vous propose juste avant qu'on parle de forêt, il y a un petit jeu dedans, donc on va jouer tous les quatre. Moi je ne l'ai pas encore écouté cette capsule, il n'y a que Léo qui connaît la réponse puisque les enfants nous ont fait des petites devinettes dans celle-ci, on écoute ça, et c'est l'école de Saint-Alban sur Emmanuel.
Je m'appelle Maxence.
Je m'appelle Léo.
Je m'appelle Ambre.
Je m'appelle Maëva.
Je viens de Saint-Alban sur Libagnole.
On a travaillé sur les arbres et les plantes. Voilà.
On a fait une promenade et dans la forêt, en extérieur, dans la forêt du Rouget. On a fait des petits exercices pour nous montrer qu'est-ce que c'était. Par exemple, on avait un pot de yaourt transparent, fallait mettre les couches dans le bon ordre pour les représenter, et comme ça on les voyait. Ou il y a en dessous, tout en dessous, je crois, il y a les petits cailloux, la roche mère, je crois. Après, il y a du caillou, mais un peu fondu. Après, c'est les racines. Et après, l'humus et les couches de feuilles mortes et les écorces d'arbres. Parce que les insectes, ils viennent dans l'humus et après, ils décomposent toutes ces petites choses.
Ce que j'ai préféré, c'est de mettre les couches dans l'ordre.
Bah, moi aussi, il y avait une activité avec les insectes qu'on devait trouver de quoi il s'agissait. Par exemple, les lombrics, les vers qu'il y avait sous la mousse dans l'écorce des arbres, les araignées et tout ça, ça m'a plu aussi. On devait les identifier grâce à un fichier où il y avait des noms d'insectes et les photos.
Surtout que moi, chez moi, c'est un peu dans la campagne. Et des fois, je vais avec mon père, on va se promener, on voit plein de petites choses. Aussi, il chasse, je pêche et on fait des trucs comme ça. Voilà. Et du coup, j'aime bien la nature. Voilà.
On a fait une chasse aux éléments. C'est une chasse où il y a des éléments
qu'on doit retrouver. Des bois de cerf, un bois de chevreuil,
une plume de buse,
une queue d'écureuil,
un cône de peigne,
de la mousse,
de l'écorce,
des glands,
du genévrier,
du genêt à balai,
des feuilles,
des aiguilles.
On a un parcours
et un biodiversité.
Cours avec l'aide de
Alexandre Burtin,
Mathieu
Ojudo
et des étudiants.
On a vu des zones humides.
Nous avons écrit des haïkus.
Ah oui, les haïkus. Sur les différents arbres.
C'est une devinette.
Ouais, c'est une devinette.
Pour le monsieur.
Pour vous, monsieur.
Mon haïku est feuille lobée, le sanglier passe par là, le fruit ovale.
Le chêne.
Ouais. Ah, on n'a pas de buzzer.
Ouais, c'est dommage, on aurait pu prévoir les buzzers.
Pardon, je me suis précipitée.
Qui suis-je?
Mon haïku est feuille dentée, écorce blanche comme la neige, feuille dans le vent.
Le boulot?
Ouais, le boulot, ça, ouais.
Bien qui suis-je?
Merci à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Voilà pour cette capsule sur Saint-Alban, de l'école de Saint-Alban sur l'Imagnol. Ça vous inspire quoi un peu quand vous entendez les enfants parler comme ça? Moi, je trouve ça extraordinaire.
Ça me met en joie.
Ouais, on se dit que c'est gagné.
Alors, parlons des relations. Bon, hormis celle d'aujourd'hui, quelles actions vous mettez en place le réel CPIE 48 d'ailleurs, je crois que j'ai dit réel 48 depuis tout à l'heure, mais vous êtes CPIE maintenant, depuis un petit moment déjà. Hein.
Oui, la vraie dénomination, c'est réel-CPIE de Lozère. On a enlevé le 48. Mais oui, donc c'est réel, c'est Réseau Éducation Environnement Lozère. Et CPIE, c'est un label national qui nous a été attribué en 2019. Et du coup, qui veut dire Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement.
Alors, quelles sont les actions que vous mettez en place entre le Parc National et le réel? Comment vous bossez ensemble?
Là justement, dernièrement, Éléonore nous a sollicité pour compléter l'offre pédagogique du Parc National des Cévennes, c'est-à-dire que le Parc National a des agents qui ont pour mission de sensibiliser les enfants et le grand public sur le territoire du Parc National. Et depuis quelques temps, l'offre est complétée par aussi des intervenants du réel, donc différentes associations et professionnels de l'animation, qui du coup ont peut-être une offre plus large que ce que peut proposer uniquement le Parc National.
C'est afin d'étoffer les projets pédagogiques, du coup on propose d'être plusieurs intervenants, plusieurs voix, plusieurs regards. Et du coup, ça crée un projet assez complet. Donc ça marche bien. Voilà.
Vraie chance d'avoir ces deux structures à Florac. Quel lien tu fais, Léonore, entre les forêts du PMC et l'éducation des enfants?
Alors, quel lien? Il faut savoir que les forêts, quand même, c'est 80% de notre territoire sur le parc. Donc le lien, il est un peu trouvé. Et les forêts, elles sont souvent aux portes de nos écoles, à proximité. Donc du coup, c'est facile. C'est facile pour l'enseignant d'emmener sa classe en école dehors, de sortir, de faire des activités en forêt. Puis en plus, on le voit comme des jours comme aujourd'hui, en canicule, on est bien en forêt, en fait.
C'est clair. En quoi c'est un support pédagogique pertinent?
Pour ces mêmes raisons-là, elle est à proximité de nos écoles, facile pour les enseignants de s'y rendre, de l'étudier. Et puis, l'écosystème forestier est hyper riche. Donc, du coup, on peut aborder l'arbre, l'écosystème de la forêt, comme je le dis, la biodiversité. Quelle biodiversité en forêt? Il y a plein d'entrées possibles sur un même thème. On peut même utiliser ce thème-là dans d'autres domaines d'enseignement, en art visuel, par exemple. Donc, c'est un bon support.
Est-ce que tu peux nous partager une anecdote ou un moment marquant que tu as vécu avec une classe en forêt?
Un moment marquant que j'aime bien raconter dans ma carrière, dans ma petite carrière pour l'instant, c'est que j'étais avec les élèves de l'école de Vébron il y a quelques années, qui étaient sur une aire terrestre éducative. Et donc on a mis en place une intervention pour estimer la biodiversité que pouvait contenir leur aire terrestre éducative. C'était une vieille chênaie, un verger. Et du coup, ils ont été voir, ils ont été fouillés, savoir s'il y avait des milieux humides, s'il y avait des milieux ouverts, s'il y avait différentes espèces d'arbres, différentes strates, s'il y avait des arbres porteurs d'habitat, tout ça. Donc ils ont parcouru la parcelle toute l'après-midi. Et à la fin, du coup, on a mis un peu des notes. En fait, c'est toujours en lien avec un protocole que nous, on mène au Parc National. Ça s'appelle la démarche d'indice de biodiversité potentielle, IBP. Et donc, ils ont été glaner un peu toutes ces infos-là, et à la fin on s'est retrouvés, et dans le cadre de leur ATE, ils doivent mettre en place un plan d'action. Et donc dans les critères qu'ils ont relevés, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas trop de milieux ouverts. Donc ils se sont dit, pour peut-être accueillir plus de pollinisateurs, il faudrait créer des milieux ouverts, et du coup il faudrait couper des arbres. Et il y en a un qui s'est excité et qui a dit « Non, si on coupe des arbres, on va peut-être couper une essence qui fait la diversité. On va peut-être couper un arbre, un vieil arbre qui fait les différentes strates de végétation. On ne peut pas faire ça. » Et du coup, d'un commun accord, ils ont décidé de placer, la parcelle en îlot de sénescence, c'est-à-dire de ne rien faire, en fait. Rien faire, c'est une action. Mmh. Et ça, ils l'ont conscientisé, ils l'ont verbalisé en classe. Donc, c'était un très beau moment.
Éducation nationale, Parc national des Cévennes, on ne voit pas tout de suite les liens qu'il peut y avoir. Et pourtant, comment tu bosses avec les enseignants, en fait?
Donc ouais, l'éducation nationale, en fait, ça existe depuis la création du parc en 70. L'éducation nationale a mis un poste à disposition, un poste d'enseignant, donc qui gère le service éducatif du parc. Et du coup, les prérogatives de ce service éducatif, c'est de proposer une offre pédagogique aux enseignants des communes adhérentes à la charte du parc national des CV. Voilà. et donc du coup, on propose une offre avec des thématiques. Donc cette année, c'est la forêt, c'est l'itinérance. Et du coup, voilà, on fait partir cette offre. Les enseignants, en retour, nous envoient une ébauche de projet. On va les rencontrer. On construit avec eux, on étoffe, on peaufine, voilà. Et puis on réalise des interventions dans les classes, donc c'est 3 demi-journées d'intervention par an, par classe, par projet. Et voilà, en gros c'est ça. Puis plein de choses autour de ça, des interventions artistiques aussi, des interventions des adhérents du réel, voilà, tout ça.
Et d'ailleurs, la charte, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que ça pourrait être trop long, mais je crois qu'elle est tout doucement en train de se faire réviser.
Elle est en cours de révision, c'est,
ouais,
ça.
C'est ça. Et on a à peu près une date pour... ça va être long.
Ouais, ça, je ne saurais pas dire.
Ça va être long. Merci beaucoup, Céline.
Avec plaisir.
J'ai hâte vraiment d'entendre les podcasts que tu vas réaliser avec Manon dans quelques semaines. Et merci beaucoup, Éléonore.
Merci.
Au plaisir. On va continuer ce plateau. On va faire une toute petite pause musicale. Olivier, tu restes avec nous, bien sûr. On va parler justement de l'école dehors et des aires terrestres éducatives. On écoute d'abord, tiens, justement, Trio, Balade en forêt.
Je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais, la vie use. Et j'aime pas du tout ce que je fais, mais bon, j'ai une bonne pêche, je suis un homme mûr, j'ai des mômes, une voiture. Et tu sais, mon choix est fait, je peux plus revenir en arrière, tu parles d'une carrière dans une firme planétaire. Je fais partie des gens qui gagnent leur argent sur notre atmosphère. Et je fais partie des gens qui gagnent leur argent sur l'asthme de leurs enfants. Et je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais, la vie use. Et j'aime pas du tout ce que je fais, mais bon, j'ai une bonne pêche, je suis un homme mûr, j'ai des mômes, une voiture. Et après tout, j'ai choisi, ainsi va la vie et le monde vieillit. Et dans 3 ans, c'est la retraite, je sauverai pas la planète, je vais pas me prendre la tête, non. Pas me prendre la tête, non, non. Hey. Je fais partie des gens qui vous laissent un futur avec emmerdement et tonne bordure. Moi, je fais partie des gens qui vous laissent un futur bourré d'armement au minimum d'air pur. Hey. Faut pas compter sur moi, j'ai raté ma jeunesse, je profiterai de la vieillesse. Hey, faut pas compter sur moi, dans ce bordel y'a plus que toi, dans ce bordel y'a plus que toi. Hey, toi t'es celui qui rêve, je t'envie, j'en crève, que ma vie est triste, que la vie est triste. Et je sais pas combien tu es, je te laisse mes regrets et mon amertume. Parce que moi, je fais partie des gens qui ont vécu grassement, qui te laissent un héritage. Parce que moi, Je fais partie des gens qui ont traversé les temps sans faire de sentiments. Et après, et après, et après, et après.
Trio Balade en forêt, on est toujours en direct de Bec de Jeu et à Balsège évidemment pour ce plateau consacré à la journée départementale de l'éducation à l'environnement. Nous a rejoint pour cette dernière partie Charles Delalep mais aussi Marion Cardignac, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup pour la coordination de ce plateau et la coordination de cette journée. Alors comment on sent, c'est presque fini, c'est même fini là, on peut dire.
Oui.
Alors, comment ça s'est passé pour toi ?
Eh bien, on est soulagé en fin de journée et un peu fatigué, mais très contente des retours des différentes écoles et des élèves qui ont passé une très bonne journée. Comme toute journée, nous avons eu des petits aléas, mais qui se sont réglés. et voilà, on est toujours ravis d'avoir des sourires sur les visages des enfants à la fin de la journée, même si certains font quand même pas mal de routes pour participer à ce genre de journée.
Ils viennent de Saint-Chély, enfin vraiment, ça commence à faire de la route. Mais
voilà, ouais. Donc on essaye d'une année sur l'autre à déplacer le lieu pour pouvoir permettre à l'ensemble des enfants de participer sans avoir trop de route. Et de découvrir aussi du coup de nouveaux lieux qui connaissent pas forcément. Donc voilà, c'est toujours un soulagement quand c'est fini, hein, parce que c'est toujours des journées assez intenses. Aujourd'hui, on a eu le beau temps. L'année dernière, on était avec les pantalons et les doudounes. Donc voilà, on s'adapte à chaque fois, mais bon, tout le monde est reparti ravi, donc c'est le principal.
Olivier, on discutait en antenne cet après-midi hein, que ça allait peut-être changer de formulaire. C'est dommage parce que là, c'est des rencontres entre pas mal d'écoles de Lozère. Mais bon, on comprend aussi la complexité d'organiser ce genre d'événement. Donc peut-être d'autres directions pour l'année prochaine.
Alors c'est une réflexion, mais qui est liée aussi à la baisse des financements globaux. Voilà, cette journée, effectivement, je ne sais pas si on l'a déjà évoqué, mais Marion, il passe peut-être une petite quinzaine, une bonne quinzaine de jours, okay. Voilà, pour coordonner cette journée-là, plus la petite dizaine d'intervenants professionnels qui sont là sur cette journée-là. Voilà, tout ça, c'est quand même une grosse machine. Alors, changer la formule, je sais pas si elle va changer, mais en tout cas, c'est toujours bien de prendre du recul, de se questionner et de voir si on peut l'améliorer, la simplifier, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va réfléchir à ça. Après, comme le disait Marion, et comme je l'ai aussi entendu de la part d'enseignants, ils sont très contents, tout le monde est très content de cette formule-là, de rencontre départementale, voilà, ça va être aussi... Hop là, il y a du vent, c'est le direct.
Tout va bien, Ludo de 48FM n'est pas là, on va pas se prendre le truc sur la tête, il n'y a pas de souci.
Voilà, donc oui, on va le réfléchir pour l'année prochaine avec le département, bien sûr, avec Hélène Follop qui était là, on a aussi commencé à en discuter. Bon, assure.
Sait-on jamais, l'environnement sera peut-être une priorité politique l'année prochaine, doublement des financements, enfin bref, tu vois.
Oui, ça, exactement. Oui.
Croisons les doigts. Cette dernière partie de cette émission, on va la consacrer, on va parler de ce qui est une aire terrestre éducative et de l'école. D'ailleurs, c'est pour ça que Charles Delalep est avec nous, mais je vous propose, pour l'introduction de cette dernière partie, d'écouter la petite dernière capsule. Elle a été faite par les élèves du monastier, je pense, Léa et Léna. C'est tout bon pour toi, mon Léo ? C'est la fin de journée pour tout le monde ? Eh ben, on a commencé avec Charles, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est une aire terrestre éducative, une ATE ?
Oui, alors l'ATE, c'est un programme qui est financé par l'Office français de la biodiversité. Et le principe, du coup, c'est de découvrir un espace avec une classe. C'est un projet long qui peut durer sur 3 années. Et en fait, il y a toute une démarche où on va rencontrer donc les enfants ont, sur la base du bénévolat, volontariat plutôt, ils choisissent un secteur défini.
Je voudrais pas qu'on les paye pour qu'ils aillent à l'école.
Ouais, alors il y en a, il faudrait presque.
<C'est clair.
rire> Mais ils vont choisir un secteur qu'ils ont identifié comme étant potentiellement intéressant. Et puis essayer de conventionner avec le propriétaire de la parcelle en question pour voir s'il est possible de se servir de cette parcelle comme terrain d'aventure et d'expérimentation pendant 3 années. Alors il y a des cas de figure où ça se passe comme ça, et puis il y a des cas de figure où c'est des belles opportunités, où il y a un terrain aussi qui peut être communal par exemple, et la mairie elle vient... conventionner avec nous pour que cet espace, les enfants aient la liberté d'étudier pendant 3 ans les sujets qui les intéressent en lien avec la biodiversité du site et patrimoine. Enfin, c'est eux qui sont un peu maîtres du sujet. Et du coup, l'idée, c'est que sur 3 ans, il y a une progression pour aller jusqu'à quasiment des propositions de gestion qu'ils peuvent faire auprès de la mairie ou des aménagements sur site, des choses comme ça, quoi.
On va continuer à en parler. Ça y est, mon Léo, tu l'as trouvé. Donc, c'est les élèves du monastier, cette petite capsule, on écoute.
Bonjour
Léa.
Léna.
Alors, vous faites ce qu'on appelle l'école dehors. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que faire l'école dehors ?
Ben, on a un intervenant qui vient et on fait des sorties, on pêche, on mesure la hauteur des arbres, on fait plein de trucs, on a même construit des nichoirs.
Et on regarde aussi les insectes, on les met dans un petit pot et après on essaie de trouver leur prénom.
Ben nous, notre extraterrestre, c'est le parc, parce qu'il y a la rivière, du coup, ben, c'est bien. Et aussi, des fois, on va dans les champs.
Ben, il a des jeux, vu qu'il a le parc. Et la rivière, il a plein d'insectes dans cette rivière.
Il y a aussi des arbres qui font un peu d'ombrage et des bancs. Tu peux apprendre sur la nature et voir comment s'occuper des insectes, voir si l'eau elle est polluée ou pas. On a trouvé plein d'insectes qui sont polluosensibles.
Anibo, il a des renards, des blaireaux, des souris et des oiseaux.
Et aussi des martres. La loutre, elle vit dans l'eau et elle n'aime pas l'eau polluée. Ça avait disparu, mais maintenant, ça commence à revenir.
Et on a appris qu'il faut préserver la nature et la rivière.
On a même ramassé les déchets par terre.
Et on a trouvé un drapeau de France, du tissu et des bouteilles.
Aussi des jouets.
Et vous avez envie de dire quoi aux personnes qui laissent tout ça ?
Mais de faire attention à la nature, parce que si on la pollue trop, eh ben, on ne pourra plus respirer. Quoi. Parce que si on pollue, eh ben, les arbres ne pourront plus pousser comme il faut et on n'aura plus d'oxygène.
Et les insectes ne pourront plus vivre aussi. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Charles, je t'ai vu sourire au tout début. Alors, on va évidemment rebondir sur ce qu'on dit les enfants en deuxième partie, mais la pêche, ça t'a fait marrer.
Oui, parce que les enfants, ils voient une activité qui sort des murs de l'école. Du coup, c'est vrai que bon, ça peut changer un petit peu, surtout quand ils sont dans une phase de découverte. C'est peut-être un peu le cas là-bas où l'ATE, elle est relativement nouvelle. Et du coup, c'est apprendre, mais c'est aussi pas mal de temps pour eux, d'amusement. Mais les deux sont complètement compatibles. Hein. Mais c'est vrai que ça fait sourire comme il résume la chose. Et il faut savoir, c'est une petite chose que j'ai pas dit, mais y a vraiment un intérêt. Disons que les enfants sont vraiment maîtres du projet sur les aires terrestres. Et il y a aussi tout un processus démocratique au sein d'une classe pour choisir les orientations qu'ils veulent donner au projet, savoir quel sujet les intéresse, pour savoir nous aussi en tant qu'accompagnants de ces projets, savoir aller chercher les personnes compétentes pour aller répondre potentiellement à des problématiques qu'ont relevé les enfants, etc. Et en fait, ils sont vraiment au cœur de ce projet, quoi. Ils sont clairement acteurs. Ça change un petit peu aussi des champs classiques de l'école qu'on peut se faire où on leur propose un sujet. Là, c'est eux qui doivent s'intéresser à un sujet, le relever, pour ensuite décider de travailler dessus.
Et on entend un peu ce qu'elles ont dit, là, Léa et Léna, que ça change dans la manière dont les élèves perçoivent leur environnement proche. j'ai l'impression.
Ouais, bah oui, parce que finalement, une ATE, c'est des fois un endroit qui traverse pour certains au quotidien, et puis c'est un champ d'ortie, quoi. Et puis en fait, sur le long terme, il se passe quand même des choses, ils se créent des liens avec ces sites, ils s'identifient, ils aiment toujours aménager aussi un petit peu leur zone, et au fur et à mesure, c'est un terrain qui leur ressemble de plus en plus, et finalement, il se passe vraiment quelque chose, ça change vraiment la perception d'un site que peuvent avoir les enfants entre un état initial et puis un état avancé sur lequel ils sont investis pendant un temps qui peut être long pour certains, quoi.
Alors l'école dehors en Lozère, on est quand même apparemment, d'après ce que j'ai compris sur cette journée, on est plutôt pas trop mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait encore améliorer pour que ça se développe de plus en plus, hein? Je vous pose la question. Olivier?
Alors qu'est-ce qu'on pourrait, c'est déjà des associations qui soient présentes sur les territoires, puisque une aire terrestre éducative ou de l'école dehors, alors les enseignants, on pousse à ce qu'ils soient autonomes, mais on sait que ça s'accompagne, d'ailleurs il y a un programme au niveau du GREN, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais
au niveau du GREN,
ouais, le GREN, c'est le groupe régional d'animation et d'initiative,
non,
à la nature
tellement,
et à l'environnement.
J'ai tellement d'acronymes aujourd'hui, tu vois, j'adore.
Il s'appelle l'école dehors, ça s'accompagne, et effectivement on se rend compte que un binôme association, ou en tout cas intervenant naturaliste et avec un enseignant, ça, c'est ça qui marche en fait. Un enseignant, alors s'il est très pointu et s'il s'intéresse beaucoup au domaine naturaliste, il peut se débrouiller tout seul, mais il y a toute cette dimension démocratique effectivement que Charles a évoqué. Dans le cadre d'une aire terrestre éducative, il y a des conseils de la terre qui sont mis en place au sein de la classe, et voilà, et tout ça c'est des processus de décision démocratique qu'il faut animer, en fait, c'est des méthodes d'animation assez, assez particulières. Donc on est vraiment dans accompagner un projet, accompagner un enseignant à mener un projet à bien sûr, des fois sur plusieurs années. Donc tout ça, voilà, c'est... donc pour le développer, à la fois, on a parlé des financements de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, et à la fois, maintenir des associations qui sont en partenariat avec une école. Et c'est aussi toute cette richesse-là de ce genre de projet, c'est que l'école, elle n'est pas enfermée, elle n'est pas renfermée sur elle-même, elle va faire appel à des acteurs du territoire, et c'est ça aussi qui crée la richesse et une dynamique territoriale, parce que l'école, elle rayonne hors de ses murs, en fait, et ça, c'est important. Ouais.
Charles ?
Bon, je suis pris de court. Je papillonnais, quoi.
Il y avait aussi quelque chose que je voulais rajouter, pardon. C'était sur cette école du dehors, effectivement. Je voulais revenir sur on va pêcher. Oui, mais quand on pêche, on va compter des poissons, on va apprendre le nom des poissons, on va apprendre de nouveaux vocabulaires. Et en fait, la nature devient un support vraiment pédagogique sur lequel viennent se greffer plein d'apprentissages. Et maintenant, c'est prouvé scientifiquement, il me semble, Marion peut-être pourra compléter, qui est plus spécialiste de ça, apprendre en classe face à un tableau noir ou apprendre dehors avec une mise en situation réelle et concrète dans la nature, dans un jardin ou dans une forêt, on retient beaucoup mieux les choses quand on est en action et pas quand on est dans une salle de classe, désolé de le dire.
Maria ?
Oui, tout à fait. C'est que quand on est dehors, on parle plus de pédagogie active, où les enfants sont vraiment acteurs de leur apprentissage. C'est eux qui se questionnent, c'est eux qui vont faire les recherches directement pour trouver la solution. Et il y a aussi tout ce qui est apprentissage moteur, en fait, de se déplacer dans la nature. C'est différent que de se déplacer dans un couloir. Donc les enfants apprennent par l'erreur, on va dire. Et c'est vraiment une autre façon d'apprendre. Et il n'y a plus cette posture aussi de sachant que l'enseignant peut avoir dans une salle de classe. Donc c'est aussi accompagner les enseignants à changer cette posture-là. Parce que c'est vraiment différent, en fait. Et quand les enseignants sortent, on va dire, de l'école d'enseignants, on est plutôt sur cette posture de sachant et d'amener des apprentissages aux enfants, ce qui n'est plus le cas quand on emmène sa classe dehors, et ce qui peut être un gros frein, en fait, suivant les personnes. Donc c'est aussi pour ça qu'on veut maintenir cet accompagnement avec une structure en binôme, parce qu'on voit vraiment la plus-value en fait, de ce binôme-là entre enseignants et animateurs nature. Et c'est pour ça qu'on amène les écoles à développer des aires terrestres éducatives et en parallèle de faire école dehors. Parce que c'est vrai que l'aire terrestre éducative, il y a un peu un contexte de faire un certain nombre de sorties dans l'année avec du coup une personne référente. Mais école dehors, il n'y a pas de cadre vraiment défini actuellement dans la loi, en fait, enfin dans les textes. Et c'est vraiment plus aller dehors de manière régulière. Si c'est une fois par mois, bah, c'est une fois par mois. Et si c'est dans la cour de récréation, bah, c'est dans la cour de récréation, mais c'est OK, c'est pas grave. Et justement, on peut commencer par se dire bah, je sors dans ma cour de récré parce que j'ai quand même cette sécurité du fait que je connais, c'est un endroit qui est sécuritaire pour les enfants. Et pourquoi pas aller par la suite un peu plus loin. Et c'est vrai que nous, du coup, ça fait à peu près 3 ans qu'on est en partenariat avec Canopée et l'OCCE. Du territoire pour former en fait les enseignants justement à faire école dehors et à lever en fait ces freins de se dire tout de suite ah bah si je fais école dehors il faut que je sorte toutes les semaines hyper loin dans la forêt où il n'y a pas du tout de bitume. Et quand ils sortent de ces journées là on a vraiment le retour de ah en fait je peux faire école dehors de manière simple sans moi me mettre en danger on va dire et en inconfort. Et je peux aussi, pourquoi pas, mobiliser d'autres enseignants de mon école à m'accompagner et au final à faire ça à deux. Dans certains établissements, ça s'est fait et au final, c'est comme ça que ça a levé les freins. Et maintenant, en fait, ils sortent sans problème à l'extérieur et les enfants sont totalement ravis.
L'OCCE, l'Office central de la coopération à l'école.
Tout à fait.
Pour terminer, est-ce que tu as une initiative d'élèves qui t'ont particulièrement impressionné dans la gestion d'une ATE ?
Des initiatives particulières, je ne sais pas. En fait, ce qui est parfois troublant, c'est leur capacité à prendre des décisions justement en groupe et à quel point ils arrivent à s'organiser autour de sujets qui peuvent être parfois un peu complexes. On sous-estime un peu la capacité des gosses à pouvoir avoir des réflexions complexes et en fait je trouve que ça se révèle bien sur ce genre de projet puisqu'on leur laisse la place pour développer des situations pendant lesquelles ils sont amenés à réfléchir collectivement et en fait ça peut être un peu troublant des fois. Je ne suis pas sûr que tous les adultes arrivent à avoir des fois la même capacité de raisonnement. On est parfois un peu borné. Là, j'ai l'impression que des fois, il se passe des choses. Ça peut être assez inspirant.
Voilà pour ce plateau. Le temps passe extrêmement vite. Diffusé sur 48FM et sur Radio Bartas pour la journée départementale de l'éducation à l'environnement. Je remercie vraiment du fond du cœur la Ligue de l'enseignement pour leur accueil. Merci beaucoup à toi, Olivier. Merci beaucoup, Marion, pour tout ce que vous faites et toute l'équipe du Réel pour tout ce que vous faites pour l'environnement. Merci beaucoup à toi, Charles, pour la LEP et merci à Léo qui était à la technique. Restez bien à l'écoute des radios associatives, on n'y est quand même pas trop mal et on est 100% libre et indépendant. À très vite sur les ondes. Ciao.
Vieureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne, ça lui suffit-il, c'est que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette genoux en pleurs. C'est là que je suis née. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honque, elle est nue de souhait. Impossible, elle est nue. Aucun rêve de lune, aucun désir de jonque l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie toujours pour ces gens-là. Cela n'est point hideux, ce canard n'a qu'un bec et nu, jamais en vie ou de n'en plus avoir. sont-ils comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages. Ils vont tout leur désir de vœux par-dessus mon époise et mes rêvants. Et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère, puis d'un